Bienvenue sur HDR, vous êtes bien évidemment sur le mix des cultures. Il est 17h, heure à Paris, 16h en temps universel. À 18h, vous allez retrouver Sir Bachir avec Edutainment. À 19h, les années jazz de Michel Jules. À 20h, pas de Cafro, donc ce sera la playlist de votre radio HDR. À 22h, Bass Jam Radio Show. Et puis Solenoid qui clôturera votre soirée. Et puis bien sûr, enchaîneront les nuits d'HDR. En tout cas, pour aujourd'hui, en direct de 17h à 18h, c'est Campus Mag. Très bonne fin d'après-midi à vous tous. A record of the delightful piece they're going to play this evening.
Been waiting for is here.
I have something to tell you.
Merci d'avoir choisi le mix des cultures. Vous nous écoutez sur la métropole Rouen-Normandie, sur le 99.1 FM et partout dans le monde sur le www.radiohdr.net. De 17h à 18h, c'est bien sûr Campus Mag, mais ce sera surtout une spéciale puisque l'on vous parlera des tables rondes, les rencontres avec des professionnels de la culture organisées par des étudiants de Master 1 des métiers de la culture. Le rendez-vous aura lieu le 4 décembre prochain de 9h à 18h. C'est à la maison de l'université de Mont-Saint-Aignan. On y parlera festivals et musique actuelle, les femmes artistes dans le cinéma et le spectacle vivant, les métiers du livre face au numérique, mais aussi du tiers-lieu culturel, un espace en chantier. Pour nous parler bien évidemment des métiers de la culture et du Master 1, et bien sûr de l'organisation de cet événement, j'aurai le plaisir de recevoir Solène au micro de Campus Mag, mais aussi en invité, il y aura Christophe Chaumont pour nous parler justement éditeur local ici en plein cœur de Rouen. Et puis nous aurons aussi musique actuelle avec le 106 d'ici une poignée de minutes. Et puis si tout va bien, on aura Eva Doumbia pour parler de la condition féminine dans le milieu culturel dans le courant de 7h. Voilà, merci à vous de vous être branchés sur Campus Mag. Une petite musique avant de retrouver l'ensemble de nos invités, c'est Michael Kinawuka, extrait de son troisième et dernier album. Le songwriter anglais nous vient avec You End the Problem sur les ondes du mix des cultures.
Don't hesitate. Time heals the
the problem. I live the lie, love is the crime, it's you I believe in. No need to blame myself, no need to die, I'm only human. I'm done, you got to put me on, I know if you come along. Don't hesitate, time heals the pain. You ain't the problem. You are the one, do all the talking. You got me wrong, I caught you falling, I hear you calling. Don't hesitate, time heals the pain. You ain't the problem. I live the dream, I hope to be who I believe in. I used to hate myself, you got the key, break out the prison. Oh, I hope to never see time passing. Don't hesitate, time. Ain't the problem.
Michael Kinawuka avec You End the Problem en live. Enfin presque, on aimerait bien l'avoir, mais à mon avis je pense que ça va être un peu cher pour le faire venir jusqu'à Rouen avec un extrait de son déjà troisième album sur les ondes du mix des cultures.
Le mix, le mix,
le mix,
le partage de toutes les cultures.
Et sur le mix des cultures, chose promise, chose due, on va justement revenir sur l'actualité qui aura lieu le 4 décembre prochain, entre 9h et 18h à la maison de l'université. Ce sont les tables rondes, justement rencontre avec les professionnels de la culture sur différents domaines. Et pour nous en parler, justement, j'ai le plaisir d'avoir en direct dans les studios Solène. Bonsoir Solène.
Bonsoir.
Alors on va parler en effet de cet événement, on va dévoiler tout au long de cette émission les différents intervenants, le programme aussi en matinée et l'après-midi, mais auparavant je voulais te poser quelques questions pour ceux qui ne connaissent pas exactement le cadre de cet événement, le cadre de ce projet. C'est dans le cadre d'un Master 1 des métiers de la culture. Est-ce que tu peux nous dire en quelques mots en quoi consiste justement ce Master des métiers de la culture ?
Alors c'est un master professionnalisant. Qui se déroule donc comme tous les masters en 2 années, mais comme c'est professionnalisant, en fait, on a un stage obligatoire de 2 mois minimum, 8 semaines à faire en première année et de 4 mois en deuxième année. Dans le cadre de notre M1, on a les tables rondes de la culture que l'on doit organiser et qui s'organisent tous les ans sur la période de début décembre. Et donc, on doit dégager 4 problématiques liées au monde culturel et aux professions de la culture. Donc, comme tu l'as dit tout à l'heure, cette année, ça s'organisera autour des festivals de musiques actuelles, stratégies et enjeux. Donc, cette table ronde aura lieu à 9h. Chaque table ronde dure 1h30 et sera ponctuée par 15 minutes de pause. Ensuite, on va avoir les femmes artistes dans le cinéma et le spectacle vivant qui commenceront à 10h45. Une pause de 2 heures pour manger, parce que bon, quand même, enchaîner 4 conférences,
ça reste,
c'est pas facile.
Assez physique et mental aussi.
C'est ça. Et l'après-midi, on a les métiers du livre face au numérique, donc qui commenceront à 14h15. Et enfin, à 16h, ce sera les tiers-lieux, un espace en chantier. Donc pour chacune de ces conférences, nous avons demander à des professionnels de la culture d'intervenir. Il y en aura 4 à 5 selon les thématiques abordées. Donc dans les festivals de musiques actuelles, nous accueillerons Raphaël Balzari, le chanteur du groupe We Hate You Please Die.
Dont on se passera d'ailleurs un extrait, un morceau live dans le courant de cette émission.
Tout à fait. Eddie Asuna, donc, dont nous aurons une interview que tu as enregistrée avec lui au 106 la semaine dernière, qui est assistant de programmation et chargé de production du 106, mais qui est aussi l'ex-co-directeur du festival Le Rock dans tous ses états. Il y aura également Jérôme Lebet, qui est directeur et programmateur du festival Mosaïque, et Claire Roignan, qui est la chanteuse du groupe The Others. Ensuite, dans les femmes artistes, dans le cinéma et le spectacle vivant, nous accueillerons David Bobet, donc, qui est metteur en scène et directeur du CDN de Rouen depuis la sixième saison du CDN. Christine Coutris, qui est membre de l'association HF Île-de-France et qui a aussi participé au festival Cinéfable et qui est également réalisatrice. Jeanne D'Antoine, qui est réalisatrice et vidéaste. Eva Doumbia, qui est une metteuse en scène et une autrice afro-européenne qu'on essaiera de joindre tout à l'heure.
La technique le veut bien, en duplex, par téléphone en effet.
Exactement. Et donc qui est en ce moment en résidence au Festival des Bains-Douches à Elbeuf. Et Anne-Sophie Pochet aussi, qui est représentante de HF Normandie. Donc dans les métiers du livre face au numérique, ensuite on a Christophe Chaumont qui parlera de son travail présent ici avec nous. Seka, qui est un BDiste et scénariste. Thomas Elger, bouquiniste et fondateur de la librairie Théophile dans la rue Beauvoisine. Et Léna Maïornikov, donc qui est une étudiante et autrice et... Donc qui est à la fois un peu lié à la problématique d'avant des femmes dans le cinéma et le spectacle vivant, bien que ce soit dans la création littéraire, et qui a fait sa thèse notamment sur, je me souviens malheureusement plus de son nom, mais une poétesse qui s'est fait connaître via Instagram. Et donc pour le dernier thème des tiers-lieux, on va avoir Geoffrey Vigan, qui est bibliothécaire à la médiathèque de Lisieux, Simon Hugolin, qui est le cofondateur et le directeur artistique de La Friche Lucien, Stéphane Monnier, le directeur du Calife, et Caroline Degraff, qui est la collectrice du Kaléidoscope.
Donc un beau panel culturel qui vous sera présenté en matinée et l'après-midi, ce 4 décembre. Et bien, sans perdre un instant, on va en profiter justement pour vous faire découvrir un des intervenants qui sera lors de cette première table ronde, puisque l'on parlera musique actuelle et festival en début de matinée. C'est Eddie Asuna, qui fait donc partie du 106, que je vous propose de découvrir maintenant sur les ondes du mix des cultures. Très bonne écoute à tous.
Ces dernières années, on partait d'une région qui était assez en retard au niveau des équipements notamment, à aujourd'hui des équipements, en l'occurrence des salles ou des festivals, qui couvrent à peu près tout le territoire, aussi bien les métropoles que les villes et même un peu la ruralité.
Un exemple de festival qui a marqué l'histoire musicale normande, c'est le rock dans tous ses états, qui a évolué tout comme les musiques actuelles en région.
Le festival, il a suivi un petit peu les métamorphoses de ce qu'on peut appeler le marché de la musique sur ces 15-20 dernières années. Un festival qui s'est arrêté au bout de 34 ou 35 ans et qui était, comme beaucoup de festivals assez historiques en France, né de la passion et de la volonté de quelques pirates qui se sont rapidement professionnalisés, qui ont été soutenus par les institutions. Et on est un peu en ce moment dans la dernière phase, c'est la récupération par des grandes sociétés, des holdings, des boîtes de production qui maintenant sont sur ce marché et qui forcément modifient un petit peu le paysage des festivals. Et le risque, c'est que voilà, le paysage s'uniformise un petit peu.
Des politiques au niveau national qui ont d'ailleurs tardé à mettre en valeur les musiques actuelles, comme nous le précise Eddie Asuna.
Comme il n'y a jamais eu de grande politique nationale, à part la fin des années 90 et la création du label des SMAC, ça dépendait beaucoup de la bienveillance ou pas des responsables politiques locaux. Donc dans certains endroits, il y a eu un laisser-faire, comme à Évreux par exemple, et dans d'autres, comme à Rouen, depuis maintenant une dizaine ou une quinzaine d'années, une vraie volonté en fait d'accompagner ce développement.
Mais un modèle qui reste encore économiquement incertain et qui nécessite toujours un soutien public pour perdurer.
Une dépendance qui est assez notable des finances publiques, en tout cas pour maintenir cette diversité dans la des propositions musicales et un prix d'entrée accessible, sans compter bien sûr tout ce qu'on fait hors diffusion, notamment l'accompagnement. Pour ça, il faut un vrai soutien de la force publique, mais de toute façon, les musiques actuelles, un secteur qui sera toujours dans un entre-deux et sur une troisième voie, entre pas 100% public et pas 100% privé, en tout cas, c'est souhaitable. Ce qu'il faut, c'est trouver le bon équilibre entre ces deux secteurs et ne surtout pas penser que c'est établi et que c'est viable, parce que on le voit assez régulièrement, il y a eu des engagements globaux de l'État dans les régions et les villes. Bah, les premiers budgets qui ont été rabotés, voire supprimés, c'était les budgets culturels, notamment les musiques actuelles.
Au-delà de la problématique économique, de nombreux festivals doivent faire face à d'autres contraintes. Et le festival Roche ne fait pas exception et doit faire preuve d'originalité, précision d'Eddie Asuna.
C'est toujours une aventure d'organiser un festival. Là, plus précisément, il y a d'autres problématiques. Roche, c'est sur une presqu'île, donc avec des contraintes géographiques qui sont beaucoup plus fortes qu'à Évreux, par exemple, où c'était sur un hippodrome, donc où il y avait autant de place qu'on voulait. Ensuite, le projet est vraiment totalement différent et l'originalité, justement, du Festival Roche, c'est d'essayer de sortir de ce format un petit peu de festival de l'été, avec notamment le choix de le faire programmer par un artiste différent tous les ans, qui est associé à la thématique qu'on présente sur le festival, et surtout de ne pas être dans la course à la croissance à tout prix sur les audiences et sur les prix des billets qui sont recentrés. On reste sur des prix de billets très, très accessibles.
Et il faut savoir se démarquer car le nombre de festivals s'accroît face à un public de plus en plus sollicité.
En se multipliant, les audiences se sont concentrées. En fait. C'est-à-dire que les zones d'influence sont beaucoup plus petites. Les rayons où on va capter les spectateurs se sont un petit peu réduits. Mais la population touchée, elle, a été augmentée. Donc il faut jouer avec ça. Parce que chaque événement, même le nôtre, finalement, se retrouve au milieu d'autres festivals qui ont ce qu'on appelle des zones d'exclusivité, que ce soit dans le temps ou dans la distance. Donc il faut réussir à trouver le bon équilibre auprès du public, qui est beaucoup sollicité, où il y a beaucoup, beaucoup d'offres. Et le positionnement d'une billetterie chic et pas chère, ça s'est révélé payant jusqu'à maintenant.
À l'instant, c'était donc notre premier intervenant, interview qui a été enregistrée au sein des locaux du 106. C'était justement sur les musiques actuelles. À l'instant, avec notre premier intervenant, Solène, justement avant de retrouver un extrait d'un des membres du groupe Where You Please Die, que l'on écoutera avec un live tiré du festival Rock en Seine. Est-ce que tu peux nous résumer justement en quelques mots cette première table ronde qui aura lieu en début de matinée le 4 décembre prochain ? Oui. Tu peux y aller.
Excusez-moi. Alors, à l'heure de l'affluence record des festivals de musiques actuelles et de leur prolifération massive sur le territoire, force est de constater une certaine diversification dans les stratégies adoptées. Donc le but, ça va être de voir quels sont les enjeux, les objectifs et les caractéristiques des uns et des autres. Donc nous proposerons au sein de cette table ronde une réflexion fondée sur l'analyse concrète de la situation des festivals en France, en mettant en perspective les différents choix de programmation, la budgétisation, les conditions de travail des intermittents du spectacle aussi, ou encore la perception des artistes face à cette pratique culturelle.
Donc voilà pour le petit texte qui résume un peu cette première table ronde. Au niveau des intervenants, vous l'avez entendu à l'instant, sont enregistrés avec justement Eddie Asuna qui est à la programmation du 106 mais qui est aussi l'ancien co-directeur du festival du rock dans tous ses états, qu'on a eu l'occasion d'interviewer au sein de cette salle de musique actuelle Rive Gauche. Mais il y a d'autres intervenants, est-ce que tu peux nous les rappeler s'il te plaît ?
Bien sûr, donc il y aura Jérôme Lebé, qui est directeur et programmateur du Festival Mosaïque, Claire Roignan, la chanteuse du groupe The Others, et Raphaël Balzari, donc chanteur lui aussi, du groupe We Hate You Please Die.
Et bien justement, histoire de faire une transition en musique et de raccrocher avec We At You Please Die, je vous propose d'écouter un extrait de leur concert qui a été donné lors du festival Rock en Seine pour l'édition 2019. We At You Please Die, c'est maintenant sur les ondes du Mix des Cultures. We'll be right back. C'était With You, Please Die. Merci. Sur les ondes du mix des cultures de rien.
Zone difficile, dit-on.
J'ai dit que c'est la Sestana.
Et si la poste est là, c'est que service public, ça signifie aussi être présent partout.
Le maire s'intéresse à son business et il aime tout le monde.
Vous écoutez HTR.
Va chier, je te dis.
99.1.
Merci d'être branché sur les ondes du mix des cultures sur votre radio HDR au cœur de la métropole rouennaise pour vous parler pour cette émission spéciale en effet consacrée aux tables rondes, les rencontres avec les professionnels de la culture qui se dérouleront le 4 décembre prochain, donc mercredi suivant, de 9h à 18h et c'est à la maison de l'université et c'est organisé, pour le préciser, par les étudiants en Master 1 des métiers de la culture. Et cette fois-ci, après avoir parlé musique actuelle, on va parler d'une chose que l'on tient dans les mains chaque jour, c'est le livre avec justement un éditeur rouennais en compagnie de Christophe Chaumont. Bonjour Christophe.
Bonsoir.
Bonsoir. En effet, on va parler, c'est une des thématiques qui va être développée, les métiers du livre face au numérique. C'est le nom de la table ronde qui sera abordée et dont vous êtes un des intervenants, un des invités. Alors avant de parler du numérique qui s'immisce évidemment dans la vie du livre, tout d'abord, on va commencer par une présentation, si vous le voulez bien, de votre maison d'édition située au cœur de l'agglomération rouennaise.
Oui, voilà, c'est une maison d'édition 100% rouennaise, rive gauche, c'est-à-dire de l'autre côté de l'eau, hein, même si c'est difficile d'y aller pour certains. Alors la spécificité de la maison d'édition, c'est qu'elle est, elle produit elle-même, donc elle est autarcique, c'est-à-dire qu'à la maison, il y a du papier vierge qui rentre, et puis il y a des livres qui sortent, et tout se fait à la maison, l'impression, le façonnage, l'encollage, le massicotage, etc. Et avec les chutes de papier vierge, eh bien, on ne les met pas à la poubelle, on les trie, on les récupère. Et dans le jardin, j'ai aussi une papeterie dans laquelle je puise des feuilles à la cuve. Et ces feuilles-là, plus rares, vont se transformer en livre-objet.
On peut dire finalement que vous faites le livre de A à Z.
Exactement, de A à Z. Voilà, je suis contacté par des auteurs et puis on va mettre en page le livre. Et puis voilà, tout va se faire à la maison dans différentes collections.
Alors, comme vous l'avez dit, collection qui est proposée au sein de votre maison d'édition. Mais concernant votre ligne éditoriale, dans quel sens allez-vous ? J'imagine qu'évidemment, vous avez certaines exigences en tant qu'éditeur pour publier au sein de votre maison d'édition Chaumont.
Oui, alors en fait, on va dire qu'il y a deux grandes catégories. Il y a une catégorie d'abord où je vais travailler avec des professeurs de lettres qui vont faire écrire leurs élèves, ou des compagnies de théâtre qui vont jouer, ou des ateliers d'écriture, des animateurs d'ateliers d'écriture. Parce qu'une des spécificités de la maison d'édition, c'est de faire des petits tirages et de produire en flux tendu. C'est-à-dire qu'on va produire 10, 20, 30, 40, 50 ouvrages. Et puis, s'il ne s'en vend pas plus que ça, on arrête là. S'il s'en vend plus, on continue. Donc il y a une partie comme ça un petit peu pédagogique pour les ateliers d'écriture. Puis à côté de ça, il y a aussi bien sûr les collections, j'ai envie de dire, plaisir, c'est-à-dire la poésie, le roman, etc., les beaux livres, les livres d'artistes. Et là, le critère, tout simplement, c'est le plaisir. C'est-à-dire on reçoit un texte et puis on éprouve du plaisir ou pas à la lecture du manuscrit. Alors le plaisir, c'est plusieurs choses. C'est la beauté de la langue, évidemment. C'est le fond, l'intérêt du fond. C'est l'intelligence, c'est l'humour. Voilà. Alors des fois, il n'y a aucun de ces aspects-là. Des fois, il y en a quelques-uns, mais pas les autres. Et puis des fois, il y a tous ces aspects-là à la fois. Voilà. Et on croche et on sait que ce bouquin-là, il faut l'éditer parce qu'il va y avoir des lecteurs.
Alors vous nous avez apporté, alors c'est très dur radiophoniquement évidemment de pouvoir le décrire, mais si on devait le décrire pour les auditeurs, il y a évidemment le livre de manière et de format classique, et vous avez apporté aussi d'autres formats un peu plus spécifiques, un peu plus originaux.
Voilà, alors effectivement il y a le livre classique et format A5, alors il y a une petite coquetterie dans la maison d'édition, c'est que c'est uniquement sur du papier d'art, du papier verger, avec des couvertures en papier d'art et des rabats, et puis il y a une autre coquetterie dans la maison d'édition, c'est qu'il y a toujours un marque-page avec un petit mot manuscrit de l'auteur. voilà, qui bien sûr, on en reparlera tout à l'heure au sujet du numérique, qui a été scanné, détouré sous GIMP et inséré dans un fichier Word. Hein. Mais après, à côté de ces livres classiques, on a des choses un petit peu plus atypiques, comme par exemple des grands portfolios 25-25, avec l'intérieur. À l'intérieur, on peut avoir soit des folios, soit des in-folios. Là, il n'y a aucune reliure, ni colle, ni agrafe, ni reliure, ni ficelle. Et ce sont des livres objets. Et puis alors, il y a vraiment, quand je vous parlais tout à l'heure de papeterie, de papier puisé à la cuve, lorsqu'on puise une feuille qui fait 30 sur 40 cm, par exemple, comme l'une des formes fait 30 sur 40 cm, eh bien, on peut imprimer recto verso et puis voilà, déchirer des bandes, et ça fait des petits livrets qui font 12 pages. Les gens aiment beaucoup parce que ça a effectivement un grain. Et c'est, en plus, c'est très agréable parce que à la papeterie, on va choisir tous les paramètres du papier, c'est-à-dire le grammage, le grain du papier, la dimension, la couleur, etc. Donc voilà. Puis on a des choses mixte comme ce portfolio A6 où là on a une couverture qui a été puisée à la cuve avec un bain unique, c'est-à-dire que ces couvertures elles sont imprimées au plomb sur une presse en fonte du 19e siècle que j'ai eu la chance de chiner à Metz. Et comme c'est imprimé au plomb, évidemment c'est autre chose que Word, hein. Donc on en fait 100 exemplaires. Voilà, c'est un tirage limité et c'est un bain vraiment spécial et unique pour cet ouvrage-là.
On peut dire finalement que chaque ouvrage est unique et est original, puisque pour préciser, dans la conception des ouvrages, c'est jusqu'au collage même.
Oui, tout est fait à la main. Oui, donc alors effectivement, des fois, il peut y avoir des petits défauts, des petites aspérités. C'est le travail artisanal en fait. Il n'y a pas de machine, enfin à part les imprimantes, il n'y a pas de machine qui fabrique les livres toute seule, quoi. Tout se fait à la main, à l'huile de coude. Le massicot, il est manuel. La coupeuse, elle est manuelle. Le collage, il est manuel. Voilà. Et ça rappelle aussi que les machines, c'est bien. Mais au-delà du fait que ça remplace l'humain, la main aussi, le bras, ça peut produire des choses.
Je voulais revenir avec vous aussi, puisque au-delà de votre métier d'éditeur, j'ai vu lors de différentes interviews, différents reportages, que vous souhaitez créer aussi une interaction avec les lecteurs, avec le public, comme dans le cadre de stages de formation, encore dans le cadre d'interventions en extérieur, bien au-delà évidemment d'être enfermé entre quatre murs en tant qu'éditeur même.
Oui, alors il y a régulièrement des stagiaires qui fréquentent la maison d'édition. Les stages se font d'ailleurs en télétravail essentiellement, à 90%. Ce sont des stages filés, j'ai envie de dire, parce que ce sont souvent des étudiants des métiers du livre post-bac, au Havre par exemple ou ailleurs. Et donc ils vont venir faire chez moi toutes les tâches que fait un éditeur. C'est-à-dire ils vont commencer par lire des manuscrits et remplir une fiche critique. Après, ils vont corriger les fautes d'orthographe d'un manuscrit. Après, ils vont choisir un livre, choisir un texte, généralement qui est dans le domaine public. Hein, ça peut être Maupassant, Zola ou des auteurs étrangers, il n'y a pas de problème. Ils vont les mettre en page, faire la notice biographique, etc. Travailler sous Word, c'est un gros, gros travail. Au final, ils vont venir chez moi imprimer le bouquin. Ils vont ressortir de chez moi avec un petit bouquin sous le bras. Et c'est arrivé que ce petit livre-là, ce soit une carte de visite pour rentrer dans un institut des métiers du livre. Voilà. Et puis c'est vrai que de temps en temps, je peux répondre à des appels pour intervenir à droite, à gauche. Voilà. Et puis il y a aussi une autre petite marotte de la maison d'édition, c'est que j'ai eu la chance d'acheter un hangar de 60 mètres carrés. Et oui, rive gauche, rive droite c'est difficile, mais rive gauche ça existe, c'est ce qu'on appelle une maison d'artisan. Et là on organise des lectures, j'ai 60 chaises. Et puis on fait des lectures à voix haute, de poésie, mais ça peut être du théâtre, on peut faire de la musique. Enfin, ça permet d'ouvrir un petit peu la culture sur la rue.
Une dernière question avant de clore cette première partie avec vous, Christophe Chaumont. Concernant justement le livre, est-ce que l'on peut dire que le livre aussi éveille les sens, puisqu'il y a évidemment la vue, on regarde le livre, on regarde les textes, et puis il y a aussi le toucher, puisque finalement, par votre profession, vous avez transformé le livre en objet d'art quasiment.
Oui, c'est vrai. Alors au départ, moi, j'adore le toucher du papier. J'adore le manipuler du papier, surtout le papier à grains, le verger ou le papier d'art. C'est vraiment sensuel. C'est vraiment un plaisir sensuel. Et le lecteur aussi. C'est flagrant. Les gens le disent. Mais en salon du livre, vous avez quelqu'un qui prend un beau livre objet avec un beau papier à grains entre les mains et il a du mal à s'en détacher après. C'est pas la même chose qu'un livre imprimé en Chine sur un papier bas de gamme.
On vous retrouve tout à l'heure, Christophe Chaumont, pour la deuxième partie. Et justement, on va parler numérique et de l'incidence qu'a le numérique, évidemment, au sein de votre maison d'édition actuellement, mais aussi peut-être pour les mois et les années futures. En tout cas, un titre que vous avez choisi, justement, c'est Laurent Voulzy. Certaines pentes d'exotisme aussi dans le titre que vous avez choisi, que je peux d'ailleurs peut-être vous laisser dire pour le titre.
Amor Jujuba.
Et voilà, je pense que j'aurais pas mieux prononcé, donc on va écouter Laurent Voulzy sur les ondes du mix des cultures. L'instant, c'était Laurent Voulzy avec un extrait, alors non pas du dernier album, mais en tout cas un de ses derniers morceaux. Et puis si je peux vous donner un petit conseil en langues étrangères, si vous aimez écouter la langue portugaise, je vous propose de découvrir aussi Salvador Sobral, qui a participé à l'Eurovision il y a de cela quelques années avec Amar Pelos Dois, qui est une très belle chanson aussi à découvrir sur les ondes du mix des cultures, bien évidemment.
Zone difficile, dit-on.
J'ai dit que c'est la Sestana.
Et si la poste est là, c'est que service public, ça signifie aussi être présent partout.
Le maire s'intéresse à son business et il aime tout le monde.
Vous écoutez HTR.
Bah chier, je te dis.
99.1.
Et de retour sur les ondes du mix des cultures, toujours bien évidemment en compagnie de notre invité, puisqu'on va parler, on va continuer de parler livres avec Christophe Chaumont pour cette deuxième partie. Après avoir décrit et parlé de cette maison d'édition et de ses spécificités, on va revenir sur justement ce numérique. Le numérique et le livre qui, j'allais dire, va cohabiter de plus en plus sous différentes manières. Le numérique, en fin de compte, on s'en aperçoit peut-être pas, mais vous l'utilisez déjà depuis un bon paquet d'années finalement.
Depuis toujours en fait. Alors ça peut paraître paradoxal parce que petite maison d'édition artisanale ne produisant que des livres papier, sur du beau papier, sur du papier artisanal puis à la cuve, mais tout est numérique, tout le reste est numérique. C'est-à-dire que je suis sollicité par des auteurs via l'email, hein, c'est numérique, on va communiquer par email, on est toujours dans le numérique. Après le texte s'est mis en forme sous Word. Voilà, on est sur un ordinateur. Des fois, on insère des images dans les livres, d'artistes ou des livres d'art. Et à ce moment-là, on va scanner des œuvres d'art de peintres et on va les détourer sous GIMP. J'ai la musique.
Oui.
Et tout ça va être inséré. Et idem pour les petits livres objets sur papier puisé à la cuve. Évidemment, ce sont des. Alors, par exemple, justement, celui-là, Rohan. J'ai tout fait à la maison. Je suis allé chercher l'image sur le web. C'est une peinture de Rouen du 16e siècle. C'est détouré sous GIMP. Donc en fait, toutes les choses sont numériques. Et jusqu'à la fin, quand le livre est imprimé par l'imprimante numérique, les gens vont pouvoir trouver le livre sur la boutique en ligne. Et on est de nouveau dans le numérique. Ils vont en avoir l'annonce sur la page Facebook numérique. Et puis alors, ce qui est génial dans le numérique, c'est qu'on copie-colle tous les liens. C'est-à-dire qu'un article dans la presse sur un site en ligne pour un journal numérique, on copie-colle le lien dans la page Facebook et les gens cliquent, achètent le livre en deux clics. Idem, quand un auteur parle de son livre, on va pouvoir copier-coller le lien du livre de la boutique en ligne sur sa page Facebook et les gens peuvent acheter en deux clics. Vous voyez, en fait, le numérique, il est présent dans toutes les étapes de fabrication du livre, au moins à 10 ou 11 ou 12 reprises, on utilise le numérique, alors que pour autant, on reste sur un objet matériel en papier.
Et jusqu'au point final, évidemment, avec le catalogue en ligne, mais aussi une vente et puis des expéditions, puisqu'on peut voir sur votre site qu'on peut quasiment faire le tour du globe.
Oui, c'est au niveau des...
Oui.
Effectivement, alors des fois on a des petits soucis techniques aux États-Unis ou au Canada, mais ça finit toujours par se résoudre. Et j'oubliais aussi de mentionner les libraires, très important. Les libraires, maintenant, le fax disparaît et les libraires nous contactent toujours aussi par email. Donc en fait, j'ai envie de dire, depuis la naissance d'un livre à la réception du manuscrit jusqu'à sa commande par un libraire ou par un client sur la boutique en ligne, on utilise toujours les technologies numériques.
Je voulais revenir avec vous également aussi, puisque le livre suit une évolution évidemment du mode de consommation, évolution des pratiques, mais aussi une approche différente des lecteurs, quel que soit d'ailleurs l'âge, que ce soit des plus petits jusqu'aux adultes. Comment avez-vous ressenti l'entrée du numérique? Je pensais surtout au niveau de la lecture des livres que l'on peut directement télécharger sur tablette par exemple ou sur ordinateur. En tant qu'éditeur, comment avez-vous justement ressenti cette nouvelle entrée et ce nouveau mode de lecture?
Alors moi j'ai entendu des choses aller dans tous les sens, j'ai entendu des libraires et même des libraires de la place me dire que leur librairie allait disparaître parce que le livre numérique allait tout envahir et remplacer. Moi j'ai jamais cru que le livre papier disparaîtrait. Je ne sais pas comment va évoluer la tablette numérique, parce que si vous voulez une tablette numérique, il y a des limites. Évidemment c'est gadget, c'est sympa, c'est rigolo, c'est fun, mais il y a des limites. Un livre physique sur du papier, vous pouvez retrouver une page très très vite. Vous pouvez griffonner, comme moi je le fais très souvent dans les marges, griffonner des petites notes au critérium. Donc la tablette numérique ne remplace pas le livre papier. papier. Et je le vois pour fréquenter des lecteurs. Les lecteurs adorent toujours cet objet papier hein, qui procure du plaisir à la main, qu'on emmène à la plage, qu'on emmène n'importe où, qui ne se branche pas, qu'on n'a pas besoin de recharger. Voilà. Vous l'emmenez sur une île déserte, votre livre, pendant 10 ans, on n'a pas besoin de le recharger. Et il y a un plaisir, à le feuilleter. Donc, je pense que le livre papier ne mourra jamais. Quelle place prendra le livre numérique sous forme de tablette ? À voir.
D'où ma question, justement, le numérique est-il bénéfique pour une maison d'édition artisanale comme la vôtre implantée à Rouen ?
Alors, vous parlez du numérique en tant que livre numérique ou de technologie numérique ?
Ça peut être les deux.
Alors moi, si vous voulez, le livre numérique, ça ne me provoque aucune angoisse, si vous voulez. Il a sa vie, il va vivre son développement, jusqu'où il va aller. Après, les technologies numériques, alors moi, elles me sont indispensables. Hein, franchement, à part si j'utilise ma presse en fonte avec mes caractères en plomb, mais alors là, je vais produire vraiment du livre au compte-gouttes et ça va être un petit peu frustrant.
Finalement, et pour conclure cette interview, on peut dire que le numérique, en ce qui concerne votre maison d'édition, a été finalement une ouverture, mais aussi une opportunité, ne serait-ce que pour publier, en effet, des auteurs qui peuvent venir de l'autre bout du monde.
Ah oui, alors ça, c'est magique particulièrement. C'est-à-dire que vous recevez un email de quelqu'un, alors généralement francophone, hein, mais qui vit en Belgique, en Suisse, en Afrique noire. Ça vient de partout, en fait. Et alors, ce qui est magique, là, par exemple, j'ai entre les mains un petit bouquin trilingue, un auteur iranien qui connaissait des gens à Venise, et dans ces gens à Venise il y avait quelqu'un qui parlait français et qui a trouvé mon contact, et ces poèmes écrits en Iran ont été traduits en français et en italien à Venise, et moi je les ai mis en page et fabriqués à Rouen. Vous voyez un petit peu la magie que peut apporter la technologie numérique. Aujourd'hui, il n'y a plus de frontières. L'information circule à la vitesse de la lumière et on peut produire des choses vraiment improbables qu'on n'aurait jamais pu produire il y a 20 ans.
En tout cas, Christophe Chaumont, merci beaucoup d'être venu dans les studios de la radio HDR. Avant de nous quitter, on va tout de même rappeler les contacts, justement, pour ceux qui souhaitent découvrir votre maison d'édition, ou tout simplement, peut-être, dans nos auditeurs, peut-être de futurs écrivains, on ne sait jamais, qui souhaiteraient vous contacter.
Oui.
Alors, du coup, on peut vous contacter comment par... Alors,
le mieux, c'est de taper Christophe Chaumont, C-H-O-M-A-N-T, dans Google. Et tout de suite, vous allez tomber sur la maison d'édition ou la page Facebook. C'est le plus simple. Parce qu'après, les adresses, c'est toujours compliqué.
Et j'imagine qu'il y a un formulaire contact où on peut directement vous écrire via votre site internet.
Bien sûr. Alors, il y a aussi l'email, tout simplement, qui est christophe.chaumont@wanadoo.fr.
Merci beaucoup Christophe Chaumont d'avoir été en direct depuis les studios de la radio HDR sur les hauteurs de Rouen. Avant de marquer une nouvelle pause musicale avec The Overs, et on va essayer de faire un petit essai malgré le temps qui file à la vitesse de la lumière, on va essayer d'avoir Eva Doumbia par téléphone en direct. Je voulais revenir avec toi justement Solène pour faire un petit rappel sur cette table ronde que justement les étudiants et le public pourra assister le 4 décembre prochain au sein de la maison de l'université.
D'accord. Alors, les métiers du livre face au numérique, c'est la table ronde, la première de l'après-midi, donc à 14h15. Et donc, les métiers du livre, qui sont traditionnellement considérés comme des métiers artisanaux, mais toujours d'ailleurs comme vient de nous le montrer Christophe Chaumont, enfin de nous le dire plutôt, ont vu leur habitude chambouler avec l'émergence de l'outil numérique. Et donc, en plein air du numérique, nous pouvons nous poser diverses questions quant à l'évolution des pratiques, des communications, de la diffusion et des droits. Donc c'est pourquoi cette table ronde se déroulera autour de trois secteurs emblématiques des métiers du livre, donc à savoir la création, l'édition et la diffusion.
Avec évidemment des intervenants, dont Christophe Chaumont qui sera présent lors de cette table ronde.
Donc bien sûr, Christophe Chaumont, il y aura aussi Seca, BDiste et scénariste, Thomas Elger, donc un bouquiniste de la rue Beauvoisine, et Léna Mayornikov, étudiante autrice.
Eh bien, merci beaucoup Solène. On va marquer une nouvelle pause musicale avec The Overs, également autre groupe qui, si je ne dis pas de bêtises, est d'origine havraise, je pense. Hein. En tout cas d'origine normande, ça c'est sûr. The Overs sur les ondes du Mix des Cultures. On va essayer de vous proposer une petite interview d'Eva Doumbia en duplex par téléphone juste après.
ça va? Super, nous ça va très bien aussi. Je suis ravie d'être avec vous parce que je viens de votre agglomération. Je fais mes débuts par ici. J'espère que vous allez passer une bonne soirée en notre compagnie. On va avoir besoin de vous sur cette chanson.
C'était V Overs à l'instant sur les ondes du mix des cultures. Désolé, hein, c'est pas dans les habitudes de la maison de couper un morceau, mais tout simplement puisque nous avons notre dernière intervenante en duplex par téléphone avec Eva Doumbia. Bonjour Eva.
Bonjour.
Eh ben c'est parfait, on va pouvoir clôturer cette émission quasiment avec vous. Il nous reste encore quelques petites minutes puisqu'en effet vous allez participer en tant qu'intervenante lors de cette table ronde qui sera proposée le 4 décembre prochain au sein de la maison de l'université à Mont-Saint-Aignan. Donc cette fois-ci c'est dans le rôle de la femme dans le cinéma et dans l'écriture. Si je ne dis pas de bêtises, hein, j'espère ne pas trop écorcher,
oui, tout à fait.
Sinon Solène va me reprendre. Alors concernant justement, si je vais dresser un petit portrait de vous, on pourrait dire que c'est l'histoire d'une femme afropéenne qui raconte des histoires de femmes dans les lettres mais aussi dans le texte, avec en effet une certaine motivation de cette mise en avant de la littérature féminine, quel que soit d'ailleurs le continent d'où provient l'écrivaine. Alors vous êtes écrivaine mais vous êtes aussi metteuse en scène et vous tenez justement à ce qu'on féminise les professions. Première question que je voulais vous poser, quel regard portez-vous sur votre carrière et sans doute, j'imagine, les difficultés que vous avez dû rencontrer et surmonter lors de votre carrière?
Alors déjà, je vais remettre les choses à l'endroit. Je suis d'abord metteuse en scène et ensuite je suis autrice et j'écris essentiellement pour du théâtre. C'est-à-dire que pour moi, un écrivain, le mot écrivain peut porter à confusion puisque moi, je n'écris pas de roman. J'ai un premier récit qui a été publié, mais ce n'est pas un roman. Alors donc, en termes de discrimination, eh bien, il me semble que j'ai eu tout un parcours en fait dans ma carrière, dans mon parcours artistique, de décolonisation et de déconstruction en fait de moi-même dans un premier temps pour essayer de comprendre en fait qu'est-ce qui par moment me donnait cette sensation d'être exclue ou de ne pas avoir accès au métier qui est ma passion et au métier que je pratique depuis maintenant un certain nombre d'années.
Alors Oui, pardon, excusez-moi, je vous
écoute. Non, je vous écoute.
Alors, concernant la création, puisque vous avez créé précédemment différentes compagnies, une compagnie en PACA à Marseille, si je ne dis pas de bêtises, ainsi qu'au Mali, avec du coup des racines qui s'entremêlent. Et la place de la femme, justement, dans cette culture en Afrique...
Alors, la compagnie, en fait, elle a été créée d'abord... En fait, il y a d'abord eu deux compagnies, effectivement, une qui a été fondée à Marseille, mais qui maintenant est au Bain-Douche à Elbeuf. Et ça, c'est important de le dire parce que mes racines sont aussi normandes. Je suis du Havre, moi, à l'origine, même de Gonfreville-l'Orcher. Et la deuxième compagnie, elle a été fondée non pas au Mali, mais en Côte d'Ivoire, à Abidjan, en 2002. Et en fait, j'ai fait fusionner les deux structures pour des questions qui sont liées à la situation géopolitique de la Côte d'Ivoire et parce qu'une partie des gens qui étaient dans la compagnie ivoirienne sont venus habiter en France puisque c'était difficile pour eux. Alors, sur les deux territoires, effectivement, la question de la position de la femme est difficile. Pour des raisons différentes, c'est-à-dire la situation de la femme en Afrique subsaharienne. Je ne peux parler que de l'Afrique subsaharienne que je connais. Hein. Moi, je suis originaire d'Afrique sahélienne de l'Ouest et je ne peux pas parler de l'Afrique en général comme si c'était un grand pays. C'est un continent, justement. Et donc, la situation, elle est forcément assez difficile puisqu'il y a très peu de femmes metteuses en scène, de femmes chefs, de toute manière, de femmes chefs d'entreprise. En France, ça commence à arriver, mais si on regarde les chiffres, on verra que la situation n'est pas aussi brillante que ce qu'on pourrait imaginer, et que même il y a une régression par rapport au moment où le rapport de Ren Pratt avait été édité. C'est-à-dire il y a une quinzaine d'années. Donc il y a vraiment un gros travail à faire pour l'égalité. Alors effectivement, c'est la question que je sens poindre, c'est à comment moi je me situe étant à un endroit qui est un endroit d'intersection. C'est-à-dire je suis à la fois une femme et je suis à la fois une femme d'ascendance africaine. Donc forcément, effectivement, les questions qui vont m'intéresser dans le cadre de la création et qui vont m'intéresser politiquement aussi, ce sont des questions qui sont liées à cette identité-là, et par extension à toutes les identités des personnes minorées.
Excusez-moi.
Non, je vous écoute, c'est la difficulté de l'exercice à distance.
Exactement, j'avoue que le contact physique est quand même en radio un peu plus agréable que par téléphone, c'est un peu plus facile en effet. Désolé du coup de vous couper puisque l'émission arrive quasiment à son terme, mais en tout cas je pense qu'on aura l'occasion sans doute de se rencontrer et de prolonger cette conversation.
Déjà je voudrais annoncer que nous on fait une fête d'inauguration de notre présence dans le lieu, ma compagnie en fait, qui arrive donc au Bain-Douche. On accueille le public à partir de ce week-end avec des concerts. Tout est gratuit, des concerts, des spectacles, notamment dans les musiciens qui seront là. Il va y avoir Kadi and the King, Imhotep qui vient de Marseille, exprès, qui parrainera la saison, Zawaya Fama qui est un groupe de rock Nawa, et puis après il y a des performances de live painting en street art, du théâtre, enfin ça va durer. Ça commence samedi à 15h, c'est libre et c'est ouvert et on espère qu'il y aura du monde.
En tout cas, merci beaucoup Eva Doumbia de nous avoir accordé ces quelques minutes et je pense qu'on aura l'occasion de proposer un reportage et une interview un petit peu plus longue avec vous à l'issue de cette table ronde. Merci beaucoup Eva Doumbia.
Je vous en prie, au revoir.
Merci, au revoir. Merci en tout cas à tous nos invités de s'être succédés. Eva Doumbia, évidemment Christophe Chaumont un petit peu plus tôt dans l'émission et Solène aussi de nous avoir parlé évidemment de cette table ronde qui, je le rappelle, se déroule le 4 décembre prochain à partir de 9h à la maison de l'université. Il y a d'ailleurs une page Facebook, page événement, vous pourrez retrouver l'ensemble des intervenants et l'ensemble des renseignements. Il me reste juste 30 secondes pour vous dire que dans quelques instants, vous allez retrouver Sir Bachir avec Edutainment, puis Les Années de Jazz avec Michel Jules. La rediff de l'émission, si vous venez la prendre en route, c'est demain à partir de 18h jusqu'à 19h. D'ici là, passez une agréable soirée en compagnie des programmes de, évidemment, Radio HDR et on se retrouve la semaine prochaine. Prenez soin de vous, ciao. Like this, love.